que Québec se lève. Les finances, l'économie, c'est compliqué? Pas avec Francis Gosselin.
8h09, est-ce que, Francis, es-tu parti pour nous faire une chronique canine ou
canine? Bon, j'élève des chiens Mira dans la vie, oui. Alexis. J'ai emmené mon chien Mira en studio ce matin. Je suis désolé et en
non,
même
non,
temps...
Non, 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 sois pas désolé, moi je trippe, là.
Mais bon, si vous entendez un jappement en onde, là, c'est pas moi.
Mais Jenny est assez tranquille.
Jenny est assez tranquille, voilà.
Pas mal assise.
Elle a célébré son 1 an le 1er janvier, donc c'est un petit chien du nouvel an.
Ah ouais?
Puis, voilà.
Là, ça en va. As-tu un prix du premier chien de l'année au Québec?
Non, c'est pas comme les pilotes sur la voie maritime de Saint-Laurent, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais bref, tout va bien du côté canin de ma vie. Merci, Alexis.
Bon, ben, excellent. On lui souhaite aussi la meilleure des chances. Ça veut dire qu'elle s'en va bientôt aussi.
Elle s'en va bientôt, le 24 janvier, le jardin à la Fondation Mira pour une semaine d'évaluation.
OK.
Puis, dans la foulée, ils vont décider si elle se classe, puis si oui, qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle.
OK, je trouve qu'elle coule, puis je vais aller récupérer.
C'est ça. Je vais faire un prix, t'inquiète pas.
Bon, côté économie, on n'a pas d'économie. Canine, tu nous présentes ta genre de personnalité économique de l'année 2019.
Ouais, la semaine dernière, on a fait un top 10 là, des nouvelles économiques. Là, c'était vraiment des nouvelles générales. On a parlé de Boeing, de Bombardier, de la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Je me suis dit, ce serait intéressant peut-être de regarder s'il y avait une personnalité économique qui avait marqué l'année un petit peu plus qu'une autre. Évidemment, le magazine Time a titré Greta Thunberg et tout ça, mais c'est pas très économique.
Ben, non.
Et donc, moi, j'ai choisi ma personnalité économique de l'année. Bon, on est
mondial.
En début mondial, worldwide, hein, comme qu'on dit. Donc voilà, je vous l'annonce. J'ai fait un petit peu de recherche. J'ai regardé plusieurs personnalités. Et donc, je vous propose qu'on jette un coup d'œil à Elon Musk. Donc, Elon Musk, c'est vous savez, très connu pour être le fondateur de Tesla, mais il a fait beaucoup d'autres choses, évidemment. Et je voudrais qu'on regarde un petit peu cette personne-là, puis pourquoi je pense que c'est une personne qui a marqué 2019. Puis même, j'aurais envie de dire qu'il va falloir garder un œil sur cette personne-là de 2020, puisqu'il y a des choses qui vont arriver là, dans la prochaine année.
Oui, parce que Elon Musk a fondé PayPal. C'est un de ses premiers grands accomplissements.
Exactement. Juste un petit peu d'historique, dans le fond, puis peut-être avant de commencer, j'ai lu, moi, il y a un an ou deux, la biographie d'Elon Musk. Bon, il faudrait la réactualiser, mais en français, ça s'appelle Elon Musk, Tesla, SpaceX et la quête d'un futur fantastique. Puis ça donne déjà le ton un petit peu de la chronique. Un futur fantastique.
SpaceX, c'est lui, ça aussi.
SpaceX, c'est lui aussi.
OK, ça, c'est les fusées qu'on envoie dans l'espace, puis qui
reviennent.
Exactement. Ils peuvent atterrir sur un 10 cent. J'ai vu ça,
c'est automne. C'est assez impressionnant. Puis dans le fond, toute la quête, toute la vie de Musk pourrait se résumer à ça, un futur fantastique. Moi, je suis évidemment un peu fan aussi de cette personne-là, mais je vais rester vraiment juste sur le plan économique. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est un gars qui est né en Afrique du Sud. Donc, c'est pas un Américain. Il est né là-bas et en 1989, il a décidé d'émigrer en Amérique du Nord, en fait, parce qu'il y avait plus d'opportunités, etc. Donc, dans sa tête. Et ce qui est vraiment intéressant que je ne savais pas, c'est qu'il est venu au Canada, en fait, dans un premier temps. Il est venu étudier à Queen's University, à Kingston, là, à mi-chemin entre Ottawa puis Toronto. Et il est citoyen canadien.
Complètement.
Il a obtenu sa citoyenneté. Il a fait ses études ensuite en Pennsylvanie, à Stanford, etc. Puis comme tu le disais, Alexis, il a ensuite fondé différentes compagnies. Une première qui s'appelait Zip2. Là, on n'a pas vraiment entendu parler de ça. Ça a été racheté par Compaq pour Compaq les ordinateurs. À l'époque, Compaq, c'était gros. Il a été racheté pour quelques millions de dollars. Bon, ça allait déjà bien. Et ensuite, il a fondé PayPal. Puis c'est vraiment ça qui a comme fait Elon Musk, le personnage qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été vendu pour 1,5 milliard de dollars à eBay.
Ben oui, ça commence bien,
en
ça.
En 2002. Puis lui, il possédait peut-être 10-12% de ça. Fait qu'il s'est ramassé comme avec, je sais pas, 150 millions de dollars, ce qui est comme beaucoup plus d'argent que la moyenne des ours, n'est-ce pas?
Oui.
Et ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que, me semble, Vez, Alexis, oui, vous auriez 200 millions de dollars, qu'est-ce que tu fais? Grosso modo, tu t'achètes un chalet, tu prends ça cool une couple d'années.
Je fais peinturer mon auto.
Ouais, ben c'est ça. Non, mais tu sais, t'as des projets personnels, mettons. Pas Musk. Et c'est ça qui en fait un personnage qui est attachant. Il a décidé de reprendre cet argent-là et de l'investir à 100% dans d'autres aventures immédiatement. La biographie révèle même qu'à un moment donné, il est arrivé, là, il restait comme genre 150 000 dans son compte. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup d'argent, 150 000, mais quand t'es parti de 200 millions, t'as retrouvé avec ça, avec un rythme de vie en conséquence. Il restait comme plus rien, essentiellement. Puis il est arrivé proche de zéro. Puis à un moment donné, ça a repris. Donc, avec 200 millions de dollars, qu'est-ce qu'on fait? Il a fondé deux ou trois compagnies, SpaceX, T'en parlais, Vez, Tesla, puis une troisième, Solar City, donc qui fait des panneaux solaires. Commençons par la première, SpaceX. Donc, c'est une compagnie qui a créé avec l'objectif, puis c'est le grand objectif, se rendre sur Mars. OK? C'est vraiment juste ça qu'ils font. Évidemment, pour se rendre sur Mars, il y a des étapes intermédiaires. Ouais. Et ces étapes intermédiaires, c'est ce dont on parlait il y a un instant, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace. Puis l'objectif de SpaceX pour se rendre sur Mars, c'est de diminuer le coût du kilogramme envoyé dans l'espace. C'est un peu technique, mais à l'époque, en début des années 2000, envoyer un kilogramme dans l'espace, ça coûtait à peu près 10 000 $. Donc, t'envoies pas un kilogramme, t'envoies 10, 20, 30, 100, 200 kilogrammes. T'envoies plusieurs satellites, des humains, etc. Et l'objectif de SpaceX, c'était de diminuer d'un facteur de 10. Donc, de passer de 10 000 à 1 000 $ par kilogramme pour envoyer des choses dans l'espace. Évidemment, si vous pesez, mettons, 100 kilos, là, 200 livres, là, mettons, comme moi, ça veut dire qu'à l'époque, ça vous coûtait 1 million de $ aller dans l'espace. Ben, avec SpaceX, l'objectif, c'était d'envoyer des gens dans l'espace pour, entre guillemets, aussi peu que 100 000 $. Mm-hmm. Ça reste une bonne quantité d'argent, mais c'est beaucoup plus abordable qu'à l'époque où c'était vraiment un truc là, pour les gens très riches.
Entre autres parce que les lanceurs, la fusée qui envoie la capsule dans l'espace sont récupérables.
Ben, c'est ça, exactement. Et donc là, tu sais, là, il faut faire une genre de séquence logique. Donc, on va aller sur Mars. Pour aller sur Mars, il faut envoyer des choses dans l'espace moins cher. Pour envoyer des choses dans l'espace moins cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer les fusées. Et donc, vous avez vu, et je vous incite vraiment, les auditeurs, à aller sur Google, sur YouTube. Là, j'ai fait hier, j'ai encore des émotions quand je regarde ça. Il y a eu en 2016 une fusée qui a réussi à atterrir sur une plateforme mouvante dans l'océan.
c'est ce que j'ai vu cet automne. Il y en
n'essayez pas ça à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a pété. Il y a eu plusieurs tentatives. Mais avant de réussir, il y a eu plusieurs tentatives. Puis vous pouvez regarder, il y a des vidéos là, sur YouTube aussi de plein de fails, entre guillemets, d'Elon Musk, des fusées d'Elon Musk qui se pètent la gueule, ça explose. T'sais, c'est vraiment, c'est pas le fun.
La NASA aussi, ça l'a
fait. Évidemment, ça est arrivé. Et une autre vidéo qui est vraiment intéressante, c'est celui-là de 6 février 2008. C'est deux fusées simultanément qui ont réussi. Parce que vous savez, il y a comme la grosse fusée au centre, puis deux fusées de chaque côté. Réussi à faire atterrir deux fusées simultanément. Donc, encore une fois, un petit moment d'émotion. Et donc, ce qu'il est en train de faire, Elon Musk, là, toujours dans cet objectif final d'aller sur Mars, aujourd'hui, c'est d'envoyer de plus en plus de choses. Puis tranquillement, il remplace la NASA, puis les fusées là, qui envoyaient des satellites et tout ça.
Mais moi, tu vois, c'est ce qui me fascine d'Elon Musk. C'est que avec ce qu'il a fondé en SpaceX, la NASA a désormais besoin de SpaceX dans ses opérations. Puis c'est quand même pas peu dire. Là, souvent, ils ont fait affaire avec SpaceX pour différentes missions.
Oui, mais l'affaire avec la NASA, puis on pourrait faire toute une capsule là, sur la NASA, mais la NASA, à un moment donné, il y a eu des difficultés. Vous savez, il y a eu les explosions de Challenger et tout ça. Puis il y avait comme mauvaise presse. Le gouvernement américain s'est désinvesti de la NASA. Puis la question, c'était est-ce qu'on va même pouvoir continuer à aller dans l'espace? Puis je pense que ce qui est intéressant avec SpaceX, puis il y en a d'autres, le fondateur de Amazon,
Jeff Bezos.
Il y a une compagnie qui s'appelle Blue Origin qui fait essentiellement la même chose. Il envoie des fusées dans l'espace.
Boeing
le fait aussi. Et l'idée, c'est que vu que l'État américain se désinvestit, vu que le public est plus investi tellement, ben, on va aller plutôt vers le privé. Donc, là, il y a des entreprises qui font un peu la course à l'espace, entre guillemets. Puis SpaceX est clairement en très bonne position pour gagner la course. Je finis là-dessus par rapport à SpaceX. Ils ont annoncé il y a 2 ans environ un programme qui s'appelle le programme Starlink. Vous avez peut-être entendu parler. C'est pas très connu, mais on va l'entendre beaucoup parler ces prochaines années. Ça a commencé en 2019. C'est une des raisons qui justifie mon choix de Musk comme personnalité de l'année. Ils veulent déployer 12 000 satellites dans l'espace avec l'objectif de rendre l'Internet disponible à tous les habitants de la planète Terre pour un montant très, très limité. Et donc, pour l'instant, il y en a juste 122. C'est quand même, un satellite, c'est quand même assez... C'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, là, 122.
Ils vont mettre ça où? Il y a déjà beaucoup de trafic dans l'espace. Là.
Ouais, regardez. Bon, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Regardez le ciel, là, c'est grand en tabarnouche.
Je pourrais croire, là. Mais...
Donc, ils vont mettre 12 000 satellites et donc pour rendre l'Internet vraiment disponible, ils en envoient 60 par lancement en ce moment. Il y en a un prévu en janvier. Il y en a pris un par trimestre. Okay. Fait que 240 nouveaux cette année, puis ils vont augmenter la cadence de sorte qu'en 2025 environ, on devrait avoir les 12 000 satellites. Entre parenthèses, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre, là, des astronomes notamment, qui disent qu'il va y avoir tellement de satellites que ça va nous empêcher d'observer les étoiles parce que les satellites, ça émet de la lumière.
Oui, lui, il a proposé des peinturées noires.
C'est ça. En tout cas, c'est une drôle d'histoire. Fait que c'est un drôle de personnage. Deuxième entreprise, rapidement, c'est Tesla. On en a beaucoup parlé de Tesla. C'est très dans les médias et tout ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est c'est que contrairement à beaucoup d'autres manufacturiers d'auto, genre GM, Ford, BMW, qui font des autos, puis leur mission, c'est faire des meilleures autos, eux, ils ont vraiment une mission qui est d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable. Tu sais, il y a comme un genre de chapeau, puis dessous, ben, on fait des chars, là, comme n'importe quel manufacturier. Mais notamment, ce que ça fait, c'est qu'en 2014, Tesla a annoncé que tous ses brevets étaient désormais dans le domaine public. C'est-à-dire qu'ils déposent des brevets, puis n'importe qui peut s'en servir, c'est plus exclusif à Tesla. L'idée, c'est tant que nous, on va développer des technologies pour faire des autos électriques, puis honnêtement, si vous voulez les utiliser, go les gars,
Alors, je pourrais prendre un de leurs brevets, un de leurs modes d'emploi ou de construction, puis
exactement,
construire ma voiture.
Exactement, puis GM peut le faire, puis Ford, ses concurrents peuvent le faire, puis l'idée, c'est que plus il va y avoir de gens qui vont fabriquer des autos électriques, plus il va y avoir de bornes de recharge, toutes sortes de dispositifs, plus ça va être bon pour cette sous-industrie-là dans l'automobile.
Mais est-ce qu'il y a des grandes entreprises qui l'ont fait?
À ma connaissance, pas vraiment, mais c'est plus un stunt de marketing, je pense, si tu veux mon avis, mais ça reste que, tu sais, dans la logique, ils ont une mission plus grande que de faire des autos, accélérer la transition, ben, on donne notre intelligence, on donne notre savoir-faire, on donne nos brevets. Ça reste une chronique d'économie, mon affaire. Je voulais parler un petit peu de Tesla par rapport au prix de l'action. Vous savez, vous rappelez peut-être en 2018, Musk avait fait un tweet qui a été très, très popularisé. Il avait dit « Je pense que je vais rendre Tesla privé », c'est-à-dire le sortir du marché, la bourse, et « funding secured », ça veut dire le financement est assuré. Puis il tweet ça, il envoie ça, c'est juste et il met un prix 420$. L'action se vendait genre 300 à l'époque. Fait que c'est comme, c'est qui le fou qui va acheter toutes les actions en circulation pour genre 50% de plus ou presque le double. Donc, et ça lui a donné bien du trouble à Elon Musk. La Securities and Exchange Commission, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers américaine, l'a poursuivi. Il y a eu des audiences. Et il a perdu le droit d'être président du conseil d'administration de Tesla. Il est encore le PDG, mais il n'est plus, le chef du conseil à cause de ce tweet-là.
Qui aurait fait monter l'action.
Qui aurait fait
trop
monter l'action
artificiellement.
Qui le funding n'était pas secured. Là, il n'avait pas l'argent, il n'y avait pas un investisseur. Ce qui est vraiment drôle pour moi, honnêtement.
Et de mémoire, ça avait eu l'effet inverse. L'action avait commencé à baisser par la suite.
Ça a augmenté au moment du tweet. Puis là, quand les gens ont vu, c'est qui le secured, le gars qui va te faire un chèque de je ne sais pas combien de milliards, là, parce que c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Et il n'y avait clairement pas vraiment de personnes pour soutenir ça. Ce qui est vraiment drôle pour finir sur Tesla, c'est que l'action, évidemment, elle fluctue en bourse. Là, monte à descend. Ben, le 23 décembre, là, il y a quelques jours, l'action a passé 420$. Puis même aujourd'hui, j'ai regardé hier soir, elle valait 440$. Donc, 420, c'était une aubaine, finalement. C'est un petit peu ironique. Et la dernière compagnie dont je voulais vous parler, c'est SolarCity. SolarCity, c'est une compagnie qui a fondé quelques années plus tard, donc, et qui fait des panneaux solaires, essentiellement. C'est une compagnie qui a fondé avec son frère, Kimball Musk. L'idée, c'est que, tu sais, aux États-Unis, là, je dis toujours, on est chanceux au Québec, là, je sais que c'est pas populaire, mais on paye vraiment pas cher l'électricité. Aux États-Unis, c'est souvent 2, 3, 5 fois plus cher qu'ici. Et l'idée, c'était que on va fabriquer et installer des panneaux solaires chez les gens. C'est nous qui allons financer ça. Puis éventuellement, les gens ils vont sauver sur leur facture, puis ça va nous payer, nous, là, comme installateurs. Ça n'a pas super bien marché. Ils ont développé des technologies comme un bardeau solaire. Je sais pas si vous connaissez ça, du bardeau d'asphalte là, sur des maisons résidentielles. Mais c'était un bardeau avec un panneau solaire intégré.
Fait que c'était... Alors, tu recouvres ta maison avec du bardeau
qui capte
la lumière solaire.
Qui capte du solaire.
Qui donne l'énergie.
Exactement. Ils ont réutilisé la technologie des batteries des autos Tesla pour faire ce qu'on appelle des power walls. C'est des espèces de grosses batteries que tu mets dans ton sous-sol. Puis donc, l'idée, c'est que toute la journée, quand il y a du soleil, tu emmagasines ça. C'est à peu près 75 kW, je pense, ces batteries-là. Puis donc là, pendant la nuit, pendant les jours qui fait moins soleil, ben tu réutilises cette énergie-là. Puis t'es comme autonome. Fait que c'est un peu le rêve libertarien là, de dire je ne dépends plus des utilities puis des monopoles et tout ça. J'ai mes panneaux, j'ai ma batterie, puis je suis comme ils disent en anglais, off the grid. Je suis plus connecté à la grille. En 2016, l'entreprise n'allait pas très bien. Fait que finalement, ils ont fusionné avec Tesla. Fait que c'est pour ça qu'on entend plus beaucoup parler de SolarCity. Maintenant, c'est comme une sous-catégorie de Tesla. Musk a plein d'autres compagnies, là, puis je vais terminer là-dessus, mais il a créé une compagnie pour faire des trous.
Oui, mais c'est ça. Là, il y a une histoire de tunnel dans le coin de Vegas que j'ai pas trop compris. C'est quoi ça?
Ça s'appelle The Boring Company. Puis c'est drôle parce que boring, c'est plate, mais boring, c'est aussi faire un trou, là, une foreuse en anglais. Okay. C'est un borer. Donc, il creuse des tunnels. Puis effectivement, la ville de Las Vegas, il a donné un mandat quand même de 45 millions pour faire un tunnel, essentiellement sous le Convention Center, le centre de convention, pour que les gens puissent se déplacer dans le souterrain. Puis c'est des beaux tunnels ronds, tu sais, sous la terre.
Comme à l'université.
Donc, il fait ça. Il a aussi annoncé il y a quelques années un projet qui s'appelle le Hyperloop. C'est un projet de train dans des espèces de tubes, un peu comme, mm-hmm. comme dans l'ancien temps, là, quand on s'envoyait des messages par le tube. Oui, mais oui, là, c'est oui, des, oui. avec des gens dedans. C'est comme un peu sous pression. J'ai pas trop compris.
C'est une vitesse extraordinaire.
À 1200 km/h. Ouais. Fait que c'est comme deux, trois fois plus vite que les TGV là, et les trains les plus rapides.
Et Francis, dis-moi, est-ce que j'imagine que c'est cette même compagnie-là qui devait intervenir en Thaïlande? Tu sais, quand il y avait eu le fameux sauvetage des enfants qui étaient pris dans la grotte, et Musk avait dit, oh, j'en ai une solution, moi, je vais vous régler ça.
Tu m'emmènes exactement là où je voulais qu'on soit pour la conclusion. Finalement, Musk, c'est un personnage, hein, comme n'importe quel Steve Jobs, on en a quelques, Jeff Bezos, on en a parlé. C'est pas un gars qui fait l'unanimité.
Non.
Toutes ces choses-là depuis tantôt, c'est un gars avec clairement une vision du futur, un futur fantastique. Il a quand même une bonne quantité d'argent. Puis, contrairement à d'autres qui s'assoient dessus, lui, il l'investit rapidement, massivement. Mais donc, il fait pas l'unanimité. Il y avait eu cette histoire donc avec les enfants là, qui avaient été pris dans une grotte. Il avait proposé d'aider. Ils leur ont dit... Les gens là-bas lui ont dit non, pas besoin. Puis là, il s'est comme fâché de pas pouvoir aider. Puis il a notamment traité le chef de projet de pédophile. Puis là,
le pédo guy sur Twitter.
C'est en cours là, en ce moment. Ah, il y a l'histoire du tweet. Je veux dire, à la fin, oui, l'action vaut aujourd'hui 440. Là, c'est bien le fun pour Tesla et tout ça. Mais ça reste que comme personne qui a une entreprise à la bourse, c'est ça, tu fais pas ça, tu bullshit pas sur le prix, excusez-moi les gros, mais tu fake pas le montant de la valeur de ta entreprise tant que ça vaut pas ça. Et donc, il y a des gens qui contestent évidemment un petit peu le personnage. Il annonce toujours des objectifs très, très, très ambitieux, puis il a la réputation de pas les atteindre. Donc, par exemple, Tesla, c'était comme on va faire 100 000 voitures par trimestre, il en faisait 80 000. C'est quand même 80 000 autos, ben oui, plus que moi j'ai fait dans le dernier trimestre.
Oui.
Mais c'est pas l'objectif. Et donc, pour les investisseurs, pour les fans, pour n'importe qui, c'est souvent un peu décevant. Donc, ça reste qu'en 2020, je pense qu'on va voir le projet Starlink. Là, je parlais des satellites qui va se développer. Ça va être intéressant de garder un œil là-dessus. Pas certain de voir grand-chose sortir de SolarCity. La technologie des panneaux solaires, ça évolue, mais très, très, très lentement. Mais ça va être intéressant de garder un œil là-dessus. Ils annonçaient à l'époque qu'ils allaient aller sur Mars en 2025-2026. Pas sûr que ça va se faire.
Un petit sprint,
mais je vous laisse peut-être là-dessus. Il y a cet excellent documentaire que j'ai pas réussi à retrouver. Là, à un moment donné, il était sur Netflix, il est plus là, mais c'est un documentaire qui s'appelle Mars et c'est fait par National Geographic et franchement, c'est assez fabuleux. C'est une fiction, c'est comme un docu-fiction. C'est une fiction, ça se passe sur Mars. C'est un futur où on a une colonie martienne d'humains avec tous les problèmes là, qui s'impliquent. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à travers cette espèce de série télé, il interview des personnages, dont Elon Musk, dont Neil deGrasse Tyson, etc., aujourd'hui, et il parle de ce que sera la colonie, qui est l'autre partie. En tout cas, je vous mélange peut-être un peu, là, mais c'est comme un documentaire, mais totalement fictif, et ça donne une idée un peu de ce que pourrait être la vie humaine sur Mars. Pour moi, choisir une personnalité d'année, c'est aussi, c'est à bout de l'économie, c'est quelqu'un qui nous fait un peu rêver. Tu sais, puis je sais que les générations avant la mienne ont rêvé d'aller sur la Lune, puis dans l'espace, puis on l'a fait. Tu sais, puis aujourd'hui, des fois, je me demande, tu sais, c'est quoi le grand rêve de l'humanité? Ben, un, je pense combattre le réchauffement climatique, peut-être.
Oui.
On a parlé des feux en Australie et tout ça, mais je pense qu'un autre rêve, c'est peut-être effectivement de se rendre à quelque part dans l'univers. Puis pour ça, ben, je lève mon chapeau à Elon Musk.
Mais peut-être que le réchauffement climatique va pousser la recherche vers Mars.
Peut-être, mais je pense
qu'on aura peut-être plus le choix à un moment donné.
On va déménager.
Je pense que ça va être intéressant de garder un œil là-dessus en 2020. Puis voilà.
Il a terminé l'année en beauté aussi, dans le cas de Musk, où il a été acquitté au début du mois de décembre dans son procès sur le gars qui avait traité de pédo guy.
Oui, ben c'est
terminé au début du mois de décembre.
Je pensais que le jugement avait été porté en appel. Je ne suis pas trop sûr, mais je pense qu'il y a effectivement un jugement qui a été rendu. Donc,
possible que ce soit en appel, mais à tout le moins pour l'instant, il est acquitté officiellement. Puis tu vois, moi, Francis, il y a une chose que j'avais déjà lu sur Musk qui m'avait fasciné, c'est que les ingénieurs de SpaceX, c'est lui-même qui les choisissait un à un. Je veux dire, t'as une compagnie, là, il y a bien d'autres choses à gérer, mais lui, chacun de ses ingénieurs sont choisis un à un par lui-même.
C'est sûr. Puis j'ai un ami à un moment donné qui est parti du Québec. Il faisait un super travail ici, mais il est parti travailler là-bas chez Tesla, lui, en l'occurrence. Mais puis ce qui est intéressant, c'est qu'il gagnait un peu moins, tout ça, mais c'était comme cette espèce d'aspiration. Je vais comme contribuer à changer le monde. Puis je sais pas si vous avez vu ce film là, sur les femmes noires dans la NASA, là, j'oublie le titre.
Quelqu'un m'en a parlé.
Excellent, là. Puis ce qui est vraiment drôle, je vais vraiment finir là-dessus. Il y avait à un moment donné une scène où le président des États-Unis se balade dans le corridor, puis il y a un concierge qui passe la mop et tout ça, puis il s'arrête, le président des États-Unis, puis il dit Monsieur, que faites-vous ici, tu sais, dans cette entreprise? Puis il dit j'aide à mettre un homme sur la Lune, tu sais. Puis en fait, il passe la mop, mais à quelque part, chaque employé dans l'entreprise contribue à cette espèce de mission plus grande. Donc, je trouve que dans le cas des entreprises de Musk, soit SpaceX, SolarCity, Tesla, Boring Company, Hyperloop, ben, il y a quelque part un genre de mission qui est plus grande que de faire le travail au quotidien. Mm-hmm. Je pense que c'est inspirant pour nous comme humains, puis pour les entreprises québécoises, pourquoi pas, tant qu'à y
être. Figure de l'ombre, est-ce que ça se peut, le titre? J'ai essayé de chercher pendant que vous en parlez.
Hidden Figures, figure de l'ombre, c'est ça, exactement. Ben oui, bien trouvé, Alexis, merci.
Hey, merci, Francis. Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine?
Si vous voulez, moi, je suis toujours disponible.
Bon, ben, si Dieu le veut, on se reverra la semaine prochaine. Sinon, ben, porte-toi bien,
merci,
Francis.
Merci. Bien.